Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « Le retour du Christ implique l'évangélisation ». Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les quatre sujets suivants. Premièrement, la révolte. Deuxièmement, la peur. Troisièmement, la mort. Et quatrièmement, la foi. Chers amis, je voudrais faire mienne cette prière d'un prédicateur africain inconnu, cité dans un livre récemment paru. Il a prié ceci : « Seigneur, je voudrais ne pas être un parleur, comme pour vanter un parti ou une marchandise. » Cette prière, je la fais mienne. Je n'imiterai pas ceux qui, dans l'espoir d'augmenter leurs bénéfices, vantent leurs marchandises. Je ne chercherai pas à profiter de vous, de vos détresses, de vos deuils, de vos échecs à supposer que vous en ayez. Je ne chercherai pas non plus à vous faire abandonner votre expérience, votre réflexion, comme si pour pouvoir croire, il fallait en quelque sorte perdre la tête, mettre de côté sa personnalité. Une telle méthode serait malhonnête, même si elle devait être couronnée dans l'immédiat du succès de votre approbation. Lorsque le grand Winston Churchill, en cette sombre année 1940, appelait son peuple à la résistance, que lui promit-il ? Du sang, de la sueur et des larmes. Il était honnête et sa promesse s'écrivit en pages douloureuses dans l'histoire de notre temps. C'était là le prix de la victoire. Un homme qui dit la vérité, un peuple qui écoute et qui obéit. Ainsi en est-il de la foi et de la résurrection. La victoire que nous promettent, cette victoire qui est promise, elle se trouve dans la vérité de Christ. Et croire n'est pas seulement une démarche de la raison, pas du tout. Elle n'est pas juste cette boutade de Voltaire qui disait « si Dieu n'existait pas, eh bien il faudrait l'inventer ». Car bien qu'il eût admis cette forme de raisonnement, il n'en devint pas croyant pour autant. Inversement, cette foi, cette vérité de l'Évangile n'est pas quelque chose qui ne puisse prospérer que chez un homme qui aurait abandonné toute réflexion logique pour ne laisser place qu'à son sentiment religieux. Non, 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 non. Ce que propose la Bible, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Le combat pour la vie et la victoire sollicite l'homme dans sa totalité, tant dans ses affections que dans son intelligence, sa volonté et même son corps. L'homme moderne est incroyant. Et certains nous rappellent le bon vieux temps dont ils gardent une nostalgie émue. Faudra-t-il, pour retrouver la foi, remonter dans le temps, retourner en enfance, ignorer toute l'histoire des découvertes qui ont fait le monde moderne et maintenir des formes de piété archaïque et dépassée? ou existe-t-il, au contraire, une possibilité de connaître le vrai Dieu, de croire et de vivre par lui et pour lui? Telles sont les questions que je désire examiner avec vous. Voyez-vous, l'homme moderne est certes différent de l'homme de l'Antiquité ou de celui du Moyen Âge. Ce dernier était croyant dans le fond de son être. Tout ce qui se passait autour de lui l'incitait à une foi aveugle. Nature, saison, astres, vie, mort, toutes choses étaient pour lui miracles inexplicables sans l'intervention directe et constante de Dieu. N'ayant pas entre leurs mains une méthode de recherche et d'expérimentation vraiment scientifique, ces hommes et ces femmes en étaient réduits à des spéculations et à des affirmations dépourvues de preuves. Ainsi, par exemple, en 1548, Ignace de Loyola, dans les règles qu'il édicte à l'intention de la Compagnie de Jésus, exige une attitude impensable aujourd'hui. Pour ne nous écarter en rien de la vérité, écrit-il, nous devons toujours être disposés à croire que ce qui paraît blanc est noir, surtout si l'Église hiérarchique le décide ainsi. Or, une telle attitude, si elle revêt un caractère extrême ici, n'en est pas moins caractéristique d'une époque. Ne nous étonnons pas alors de la confusion qui régnait dans les esprits, confondant foi et superstition, religion et magie. Voilà ce qu'en dit le pasteur Bonhoeffer dans ses lettres de prison. Le mouvement vers l'autonomie humaine, j'entends par là la découverte des lois selon lesquelles le monde vit et se suffit à lui-même dans le domaine de la science, de la vie sociale et politique, de l'art, de l'éthique et de la religion qui commence au XIIIe siècle environ et atteint un certain achèvement de nos jours. L'homme a appris à venir à bout de toutes les questions importantes sans faire appel à l'hypothèse Dieu. Et cela va de soi dans les questions scientifiques, artistiques et même éthiques, et personne n'en doute. Depuis environ 100 ans, ceci est de plus en plus valable pour les questions religieuses elles-mêmes. Il apparaît que tout va sans Dieu, aussi bien qu'auparavant. Tout comme dans le domaine scientifique, Dieu dans le domaine humain est repoussé toujours plus loin hors de la vie, et Dieu perd du terrain. Et dans ce grand mouvement historique, l'homme se révèle une fois de plus comme un révolté. Prenez ce terme dans un sens positif ou négatif, selon vos opinions. Et c'est Feuerbach qui écrit « L'homme a fait Dieu à son image ». Et c'est Nietzsche qui s'écrit « Nous nions Dieu, c'est ainsi seulement que nous délivrerons le monde ». Et c'est Darwin pour lequel le moteur de l'évolution est la sélection naturelle. C'est Marx pour laquelle, ou pour lequel plutôt, la religion n'est que la conscience inversée et un simple reflet. De découverte en découverte, on en arrive à Goetz, ce personnage de Jean-Paul Sartre qui exprime si bien le sentiment de l'homme d'aujourd'hui. Il dit « Dieu est mort, laissez-moi tout et changer tout, car je veux surtout vivre, car pour moi, Dieu est mort. » Et voilà donc exprimé la grande et sinistre découverte de l'homme moderne. Alors s'il n'y a plus de Dieu, il n'y a ni bien, ni mal, ni salut, ni jugement, tout est absurde et rien n'a de sens. Il n'y a plus de référence à l'horizon de l'homme, plus de frein, plus de sainteté, plus d'autorité et plus de respect. Voilà où nous en sommes après des siècles de révolution. L'homme se retrouve seul. Le dieu du beau et du parfait des Grecs est mort. Le dieu de la conscience de Jean-Jacques Rousseau est mort. Mort le dieu raison de Kant. Décédé le dieu de l'histoire de l'action de Hegel. Le dieu de l'idéalisme est à terre. Et Nietzsche l'a simplement tué. Mort encore le dieu que l'on découvrirait au fond de soi-même. Freud l'a démasqué et il ne reste rien de lui. Nous avons perdu le dieu des cathédrales, disait-il il y a quelques jours, un prêtre russe qui est parti de son pays à la suite de la révolution. Mais nous avons retrouvé le dieu des pauvres et des situations désespérées. C'est ce Dieu-là, chers amis, que nous annonçons. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité le troisième jour. Ce Dieu ridicule aux yeux des juristes romains et des savants grecs, ce Dieu scandaleux pour tant de gens à cause de sa volontaire faiblesse. Mais pour tous ceux qui lisent la Bible dans un esprit de recherche et de foi, il est bouleversant de constater que ce Dieu qui parle au travers de ce livre a annoncé et décrit l'état de révolte de l'humanité entière. Longtemps à l'avance, les prophètes et les apôtres ont proclamé à ceux qui voulaient les entendre que l'homme prendrait la place de son Créateur et qu'il se déclarerait lui-même Dieu. Oui, la Bible a dit vrai lorsqu'elle proclame que l'homme est un être perdu, aveugle et pitoyable. Elle dit vrai quand elle affirme que l'homme ne saurait retrouver et réentendre ce Dieu sauveur par sa seule raison ou même par sa conscience et qu'il ne le peut que sur le chemin de la révélation et de la foi. Non, 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 l'homme n'a pas le pouvoir de se redresser tout seul. Il ne peut se sauver, s'orienter, se conduire à moins qu'un autre ne le cherche, ne le trouve et le guide. C'est donc là l'histoire de Jésus-Christ et la raison de sa faiblesse. Le Dieu de Jésus-Christ ne saurait être relégué au ciel ou dans l'éternel après ou dans l'insondable avant. Voyez-vous, en Jésus-Christ, il veut être le centre de l'histoire des pauvres que nous sommes au fond absolument tous. Et c'est pourquoi il ne saurait être au milieu de nos triomphants, riches, écrasants de supériorité, car s'il l'était, il ne serait pas des nôtres, il ne serait pas notre ami et notre espérance. Mais étant devenu l'un de nous, il peut assumer toute la détresse humaine jusqu'à la fin. Dieu était en Christ. C'est ce qu'a écrit l'apôtre Paul, réconciliant le monde avec lui-même et refusant de punir les hommes pour leur offense. Ce Dieu-là, croyez-moi, n'est pas mort. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Et c'est ce que nous dit encore l'apôtre Paul. Élevez-vous, ô hommes, déboulonnez toutes vos idoles, découvrez les masques de vos fausses raisons et de vos faux dieux. Avec Job, le désespéré, nous écrions ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Certes, il y avait des raisons de ne plus croire en un certain Dieu qui bénit les braves gens et qui punit les méchants. Alors, n'y comprenant plus rien, il crie vers cet autre et devient ainsi témoin du ressuscité. Nous avons, il est vrai, toutes sortes de raisons de ne plus croire au Dieu de nos imaginations et de nos philosophies. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que l'Écriture sainte nous appelle à croire. C'est au Dieu que ni nos imaginations ni nos philosophies ont découvert. Non, c'est au Dieu humilié, mais vivant de Jésus-Christ. Oui, de Jésus-Christ que nous désirons, croyez-moi, tous appartenir. Puissions-nous, chers amis, reconnaître tout cela et le croire. Nous allons maintenant aborder un problème qui nous est commun à tous, c'est celui de l'angoisse et de la peur. En guise d'introduction, je citerai quelques lignes d'un livre paru voici quelques années, dans lequel un médecin psychiatre relate les entretiens qu'il a eus avec un homme tourmenté. Un avocat délégué de son pays à de grandes conférences internationales. Voici donc un moment particulier, particulièrement saisissant, on peut le dire, de ces consultations. Il dit ceci, « Je ne sais plus rien. Comment savoir ? Suivre à la lettre les instructions religieuses ou civiques qu'on a reçues ? Tout a été dit, tout a été écrit, les choses les plus belles et les plus dégoûtantes, les meilleures et les pires, dans toutes les langues même, dans toutes les religions, dans tous les pays. Où donc se trouve la vérité ? Je vous demande de l'aide. Oh, je vous demande vraiment de m'aider. » Et mon patient pleurait, sans retenue, comme un enfant. Je ressens une peur qui s'enfle et qui monte, qui s'empare de moi comme la rouille d'un bout de fer. Une peur qui est devenue plus forte que l'amour de mon travail, de ma famille, de ma vie. Je m'y enlisse comme dans du sable mouvant. J'en deviens lâche, haineux. Oh, quel dégoût! Il s'agitait, cet avocat, de plus en plus. Et puis il s'écria, « J'ai vraiment peur jusqu'au fond de mon âme. » et d'une voix étranglée par l'émotion, il ajouta « Au secours, s'il vous plaît !» Malheureusement, cet homme ne reçut pas le secours qu'il attendait vraiment. Aussi, quelques mois plus tard, ce fut, hélas, le suicide. Ce que nous disons ici, ce que nous crions sur ce CD, n'a pas d'autre sens que celui de répondre à ces « au secours » qui émanent de tant de vie, appels muets d'hommes et de femmes désorientés qui n'ont pas trouvé de sens ou d'issue à leur existence. Notre vœu le plus honnête est de capter votre attention, de vous aider à mettre le pied sur un rivage solide où le terrain ne se dérobe plus et où votre vie pourra trouver son sens et sa valeur. Oui, c'est Camus qui dit quelque part « Le révolté ne demande pas la vie, mais les raisons de la vie. » Et la Bible n'affirme-t-elle pas elle aussi ? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles de Dieu sont le secours profond et vrai dont vous avez besoin. Mais disons-le tout à fait sincèrement, cette parole n'agit pas sur nous à notre insu, à la manière d'un automatisme tel un instinct animal. Le psychisme de l'homme est ainsi fait qu'il élabore et ordonne les informations que lui transmettent ses sens en vue de prendre une décision consciente et volontaire. Tout ce qui se fait en nous et par nous requiert notre participation et notre engagement, y compris le fait d'écouter les paroles de Dieu pour en vivre. La psychologie distingue l'angoisse de la peur. L'angoisse, c'est le sentiment que l'on éprouve devant un danger possible, réel ou imaginaire, tandis que la peur est une réaction émotionnelle à un danger actuel et réel. Aussi, ces deux réactions sont au fond normales. Elles sont un signe de vie. L'homme appelé à vivre dans un milieu étranger et hostile cherche à satisfaire ses besoins fondamentaux. Cette recherche va l'amener à un progrès et il est donc normal d'éprouver une certaine angoisse devant les problèmes de la vie, de la mort, de la justice et du salut, pour ne parler que de besoins spirituels. Seulement, voyez-vous, cette angoisse, souvent, elle dégénère parce qu'elle n'est pas orientée vers sa solution véritable. Au lieu de considérer le danger dans la vérité, on le fuit, on élude la question, on fausse le problème. On recherche par exemple à dévaloriser l'autre pour s'assurer la supériorité sur lui. Ou bien alors, on fuit dans la pitié de soi, dans la colère, dans la révolte contre la société, contre telle personne, ou, pourquoi pas, contre Dieu. En psychologie, on appelle cela la politique de prestige. Ou alors, on fuit dans la banalisation, cherchons à se convaincre qu'il n'y a pas de mal, que notre conduite n'a aucune importance et que la morale est un machin inventé par les églises pour imposer leur tutelle. Toutes ces manières de fuir nos vrais problèmes ne résolvent jamais notre angoisse parce qu'elles sont des mensonges dont on est soi-même la première victime. Or, toutes les déformations du psychisme humain sont imputables au fait que l'homme se trompe lui-même. Mais la vie ne peut exister dans le mensonge. Le mensonge augmente l'angoisse et le mensonge tue. Remarquez que cette fuite devant la vérité est très souvent inconsciente ou refoulée. Que ce soit dans les rêves, dans la colère ou dans la résignation, ces fuites dans le mensonge n'en produisent pas moins de profondes altérations de notre être. Le mari qui trompe sa femme est lui-même une preuve. C'est lui-même la première victime du camouflage de sa duplicité qu'il doit constamment adopter. Telle autre personne, simplement par angoisse de ne pas être aimée et d'être abandonnée, fait son travail d'une manière si scrupuleuse, si parfaite, qu'elle en devient même malade. Et c'est là aussi une forme de mensonge qui l'empêche d'être simplement elle-même. Toutes ces attitudes fausses, on peut dire, sont à la base de l'immense angoisse de notre monde moderne. Aux États-Unis, ne dit-on pas qu'un lit d'hôpital sur deux est occupé par un malade dont les troubles corporels ont une cause d'origine psychosomatique, donc psychique. La seule issue à cette situation dramatique est dans la vérité. Non pas une vérité académique et objective avec un grand V, mais une vérité que l'on laisse humblement pénétrer en soi. Tous les sauveurs du monde, tous les rites, toutes les drogues, toute la science ne pourront rien pour nous, ah non, si nous n'acceptons pas de nous regarder dans le miroir et de dire « Voilà qui je suis ». « Connais-toi toi-même », disait l'antique sagesse. La condition de l'harmonie et de la santé psychique, c'est la connaissance de soi-même. Si la maladie et la mort sont dans le mensonge, croyez-moi, la guérison et la vie sont dans la vérité. La vérité reconnue et acceptée libère, même si elle nous amène à reconnaître nos fautes et nos erreurs. Le mensonge et l'illusion culpabilisent et sont source d'angoisse accrue. Dans ce domaine aussi, la Bible nous trace un chemin sûr de guérison et de rétablissement. Au cours d'une circonstance tragique où Jacob, rempli de peur, prie et supplie, il s'entend demander son nom tout à coup. Or Jacob, en hébreu, signifie « trompeur ». Cet homme plein d'astuces et de ruses, il faut bien le dire, se voit ainsi dans l'obligation d'avouer sa véritable nature. Et c'est à la suite de cela qu'il reçoit une bénédiction nouvelle et qu'il devient Israël. De multiples exemples pourraient être cités dans la Bible où l'on voit Dieu appeler l'homme à une confession sincère. C'est David qui s'écrit au psaume 32 « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Et c'est saint Pierre qui avoue tristement, mais quand même fermement, « Tu sais toutes choses, mon maître, mon sauveur, mais tu sais une chose aussi, c'est que je t'aime. » Voyez-vous, devant tant de problèmes de l'homme moderne et celui de l'angoisse, et l'un des plus graves, on peut dire, l'angoisse. Alors l'Évangile, s'il est accepté et suivi, elle devient une puissance qui reconstruit un homme nouveau, façonné dans le difficile apprentissage de la vie, de la vérité de la vie. Et si souvent tant de chrétiens ne sont pas ce qu'ils devraient être, c'est qu'ils n'ont pas su ou tout simplement pas voulu se donner dans un aveu total et sans restriction de ce qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes. Pourquoi donc auraient-ils peur? La croix du Christ leur révèle deux choses également vraies. Primo, la perversion profonde et universelle de l'homme. C'est sa condamnation à la mort de Jésus. Je répète, la perversion profonde et universelle de l'homme, c'est sa condamnation dans la mort de Jésus-Christ. Et secondo, l'amour qui, en ressuscitant Christ, témoigne de la réconciliation accomplie et surtout du pardon qui est accordé. Je répète, l'amour qui, en ressuscitant Christ, témoigne de la réconciliation accomplie et du pardon qui est accordé. On peut dire Alléluia. Voyez-vous, celui qui a compris cela reconnaît qu'il est cet amas de contradictions et de mensonges digne d'être frappé de la colère de Dieu. Il est cet homme, cette femme que décrit Pascal. Quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté? Quel monstre? Quel chaos? Quel sujet de contradiction, et pourtant quel prodige! Juge de toutes choses, imbécile vers de terre, dépositaire du vrai, d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Oui, le croyant se reconnaît et s'accepte dans la figure de l'homme de douleur brisé pour ses péchés. Il accepte l'amour révélé au calvaire qui, tout en dévoilant le tréfonds de notre être, nous accueille tel que nous sommes et uniquement ainsi. Une immense certitude, une confiance impossible germe là, là même, où l'angoisse, où les vains efforts, où le mensonge régnait auparavant. Nous n'avons alors plus à craindre ce Dieu trop parfait pour nous. Nous n'avons plus à nous mortifier, à nous haïr nous-mêmes. Nous n'avons plus à craindre de ne plus être aimés et d'être abandonnés ni dans la vie ni dans la mort. L'humiliation profonde que nous éprouvons lorsque nous confessons au crucifié ce que nous sommes en réalité débouche sur un chant d'allégresse, car le Saint-Esprit qui nous régénère fait de nous des hommes nouveaux, ressuscités spirituellement avec Jésus-Christ. Troisièmement, nous avons la mort. Dans la propagande faite au sujet de certains films pénibles, on lit parfois des remarques de ce genre « Personne sensible, s'abstenir ». Au sujet de ce message, je voudrais vous donner cet avertissement. Si quelqu'un n'aime pas la vérité, qui tourne le bouton. C'est une recherche de vérité que nous poursuivons ici, en effet, non pas d'une vérité qui nous soit extérieure, mais de quelque chose qui pénètre profondément en nous, qui nous juge et nous délivre. Nos illusions quant à notre conduite, à notre personnalité, à notre avenir ou à notre religiosité produisent sur nous des sentiments agréables. Combien nous aimons être bien vus, combien nous aimons que les autres aient une bonne opinion de nous. La vérité, lorsqu'elle nous atteint personnellement, elle nous dépouille de ces barrières de sécurité que notre inconscient, on peut dire inconscient personnel ou collectif, élève autour de nous. Se reconnaître tel qu'on est, croyez-moi, provoque des sentiments pénibles, oh oui, voire même effrayants, qui nous donnent envie de fuir. Ces sentiments sont souvent des jalons qui guideront nos pas vers un fondement solide. Voici ce que disait Dietrich Bonhoeffer concernant, par exemple, l'homme doué de conscience. Je traduis de l'allemand. Les déguisements innombrables, honorables, et séduisant que choisit le mal pour s'approcher de lui, le rendent anxieux et incertain, jusqu'à l'amener à se contenter d'une conscience tranquille plutôt que pure, jusqu'à le faire mentir à lui-même pour ne pas désespérer, car l'homme qui trouve en lui son propre appui, ne comprendra jamais qu'une mauvaise conscience peut être plus forte et plus salutaire qu'une conscience qui est abusée. Chers amis, prenons l'exemple, hélas, trop fréquent, d'un conflit entre des époux. Chacun des partenaires souligne l'injustice de l'autre et s'étend largement sur tous ses défauts et ses défaillances. Plus l'autre est avili, plus on pense être dans son bon droit. La saleté de l'autre est en mesure inverse de notre innocence. On se remonte ainsi le moral à coup de mensonge. Mais que vaut ce moral? Que valent ces vertus qui n'existent que par la honte de l'autre? Commençons au contraire, pourquoi pas, à avoir moins bonne conscience, à découvrir les vrais motifs de la discorde, à rentrer en nous-mêmes, en toute honnêteté. Il nous faut donc être vrai. Dans mes deux messages précédents, j'ai parlé de la révolte et de l'angoisse qui apparaissent dans nos temps modernes. Maintenant, je désire parler de la mort. Ce grand et courageux connaisseur de l'âme humaine que fut Sigmund Freud nous aidera tout d'abord dans nos recherches. C'est en effet une de ses grandes audaces que d'avoir émis l'hypothèse de l'existence d'un instinct de mort qui conditionne tout le comportement profond de l'humanité. Cette tendance ne se retrouve pas seulement dans l'histoire universelle, mais aussi dans notre comportement le plus intime. Retourner en arrière, rentrer dans le sein maternel, retrouver l'état de nos existences, fuir tout simplement la vie, la conscience, fuir la responsabilité et l'amour. La fin vers laquelle tend toute vie, croyez-moi, c'est la mort. Si tu veux la paix, prépare la guerre, dit le proverbe. Si tu veux la vie, prépare-toi à mourir, propose Freud. Or, voyez-vous, le temps où nous vivons est une époque où la mort prend un sens et une dimension qu'elle n'avait pas encore eue auparavant. Certes, le succès de la médecine et ses succès sauvent actuellement des millions de malades qui autrefois étaient tout simplement condamnés. Certes, la dernière guerre, cette guerre mondiale, elle s'est terminée, mais comment? La paix a pu être plus ou moins maintenue grâce à l'équilibre de la terreur. Tout ceci n'empêche pas que, plus que jamais, la mort plane dans l'inconscient de l'homme moderne. Qui dit vie suppose en effet un certain ordre, une hiérarchie des valeurs. Pour qu'un organisme vive, il faut que certaines conditions soient respectées, que les éléments soient élaborés selon un certain plan. La biologie a mis en évidence l'arrangement extraordinaire des atomes et des molécules chargées de transmettre et d'entretenir la vie. À ce niveau-là, la vie est un ordre et la mort le désordre. Et on peut dire que c'est vrai. Dans le domaine de la pensée et des affections, chers amis, il en est de même, car les psychologues, ils ont démontré les lois qui régissent le comportement des humains comme des animaux. Ils nous ont montré l'importance de facteurs remontant à la plus tendre enfance. Ils ont mis le doigt sur la valeur des relations humaines entre parents et enfants, par exemple. Que de désordre dû à la défaillance ou à l'exagération de tel ou tel facteur. Là aussi, la vie psychique n'est possible que dans un ordre véritable. Dans un autre domaine encore, celui de la morale, on dénote une dévaluation profonde de toutes les valeurs grâce auxquelles la vie sociale a pu se maintenir et se développer. Mariage, famille, fidélité, respect des biens de l'autre. Toutes ces notions sont malades et meurent sous les coups de toutes les révolutions violentes ou non. Ce phénomène de mort universelle se traduit à tous les niveaux des activités humaines. Nos industries, nos voitures, nos avions gaspillent l'eau, l'air, accumulés pendant des millénaires. Savez-vous qu'un avion, à réaction, consomme 35 tonnes d'oxygène simplement pour traverser l'Atlantique? La température ambiante, elle monte lentement en raison tout simplement de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'air, provoquant une accélération de la fonte des glaces polaires. Dominique Albouy, dans « Science et avenir », écrit ceci. « Cette tendance à créer des déserts, on l'a retrouvée aussi bien dans l'action de l'agriculture que dans celle de l'élevage, de la déforestation et même des fumées d'usines. La planète deviendra-t-elle un désert? Actuellement, le quart de la Terre, le quart du globe terrestre, est recouvert, savez-vous, de déserts. Eh oui, et surtout des déserts qui sont créés par l'homme. Que deviendront les trois quarts existants? Et il termine en disant « Tout ceci ne pourra que freiner, ralentir l'infernale destruction de la terre par l'homme. Il y a des imbéciles qui pensent qu'ils arriveront à 150 ans, qu'ils pourront vivre donc plus de 150 ans. Mais ces imbéciles-là ignorent totalement par égoïsme pur qu'il y en a des centaines de millions autour d'eux qui meurent de faim, qui n'ont même pas d'eau pour boire. Rien ne pourra empêcher l'homme de travailler à sa perte. Albert Schweitzer n'avait-il pas prédit que l'homme, en perdant son aptitude à prévoir et à prévenir, finira par détruire sa terre? Nous voyons que ces faits corroborent l'affirmation de Freud selon laquelle la fin vers laquelle tend toute vie, c'est bel et bien la mort. Il nous faut donc mourir, même s'il y en a quelques-uns qui pensent arriver à plus de 150 ans, tant mieux pour eux. Cela concerne, croyez-moi, chacun de nous qui est pris individuellement, mais aussi, voyez-vous, ce monde tel que nous le connaissons, avec toutes les richesses naturelles, morales, culturelles, scientifiques, qui s'y sont accumulées. Croyez-moi, cette mort aura lieu comme une conséquence à nos propres œuvres. Dieu avait fait annoncer cette mort universelle et totale par ces hommes de la Bible, ces prophètes de la parole de Dieu. Ils nous apportent leur témoignage. Là, Dieu parle de la mort, non pas comme de l'aboutissement plus ou moins naturel d'une longue vie, mais d'une mort qui est une destruction choisie par l'homme et gravée de manière héréditaire dans le capital génétique de la race. Ce « tu mourras ». La première humanité l'entendit lors de sa première, de sa grande et mystérieuse faute. La fin de ces choses, croyez-moi, c'est la mort. C'est ce qu'a écrit saint Paul quand il a écrit aux Romains. Ces paroles bibliques ne sont-elles pas corroborées par tout ce que nous venons d'esquisser ensemble? Mais Dieu, que fait-il dans tout cela, dira quelqu'un? Écoutez ce récit très authentique, je ne me permettrai pas d'en vous dire un autre. C'était au cours des combats de la Révolution russe. Là, il y avait la femme d'un officier, mère de deux enfants. C'était une femme juive. Elle avait été surprise dans une ville reprise par les troupes révolutionnaires. Elle s'était cachée dans une masure avec ses deux fils, deux petits garçons. Or, soudain, une jeune femme du même âge entra et lui annonça qu'on l'avait dénoncée. La délation avait cours comme jamais, même aujourd'hui, n'ayez pas peur. Il fallait donc qu'elle s'enfuit, mais ne risquait-elle pas d'être prise?